Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Et oui, on joue, c'est sérieux, sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans les voies du scénarium. Ce soir, on va faire plusieurs choses. On va d'abord partir faire un retour sur l'Angers Geek Fest qui a eu lieu ce week-end, le samedi et dimanche. On va parler de l'ouvrage qui a été publié là-bas, le M42, spécial Monde Fantasy. Et puis, on va recevoir les gens qui organisent Meugeterie et Merveille qui auront lieu les 23 et 25 avril. Les 25 et 26. On en reparle tout à l'heure. Et juste avant, je vais vous faire écouter un reportage qui a été réalisé à l'Angers Geek Fest. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Aujourd'hui, je suis à Angers Geek Fest avec ma fille Garance. Elle bénéficie aujourd'hui d'un passe-presse et comme le travail est interdit pour les enfants, elle est donc bénévole et je lui ai proposé de faire une sorte de stage dans lequel elle va être obligée de faire un reportage à l'Angers Geek Fest. Ce sera l'occasion pour elle de rencontrer des cosplayers, des boutiques avec des gens qui font de l'artisanat, mais aussi des musées. Je vous laisse écouter ça au fur et à mesure.
Vous faites quoi ici? Alors, moi, je suis Cassandre, je suis co-responsable de l'accueil pour l'Angers Geek Fest. Je suis co-responsable depuis 4 ans, donc à savoir depuis la 3e édition qui était le Geek au féminin.
Intéressant. Pourquoi vous faites ça?
Tout simplement parce qu'en fait, je suis venue en tant que festivalière à la 2e édition, que ça m'avait énormément plu et je me suis dit pourquoi pas passer de l'autre côté. J'étais juste bénévole qui s'occupait de l'accueil côté Geek Fest et comme ils ont vu que ça se passait bien et tout et que on devait faire une deuxième accueil, ils m'ont proposé de prendre le poste justement de responsable pour la deuxième accueil.
C'est super ça. Et pourquoi est-ce que vous continuez à le faire chaque année?
Bah, pour l'ambiance, tout simplement. Il y a une bonne ambiance avec, entre les bénévoles, aussi bien côté Mandora que côté Leno, qui fait partie des organisateurs de ce festival. Et également parce que les festivaliers, ça me fait du bien de les revoir. Et il y a quasiment chaque année des têtes qui reviennent. Et donc, c'est bien de voir, on peut prendre des petites nouvelles, etc.
Ok. C'est quoi l'élément que vous trouvez le plus emblématique du Geekfest?
Le plus emblématique. Alors, pour ceux qui ont la chance de venir juste avant l'ouverture du festival, ça serait la pré-ouverture par Christophe qui chauffe très bien, qui échauffe bien, on va dire, les festivaliers, qu'on retrouve souvent sur Instagram.
Oui, est-ce qu'il y a autre chose pour les gens qui ne viennent pas avant?
Bien évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas participer au pré-show, comme je l'appelle, en fait, on a des annonces micro pour nous annoncer la bienvenue, etc. Et à l'intérieur, l'ambiance est génialissime. Voilà, c'est que mon avis. Et on peut faire pas mal de petites choses. Ça peut être des dédicaces, ça peut être des conférences, ça peut être juste papoter un petit peu avec certains bénévoles, etc. Donc il y a pas mal de choses, même pour les petits retardataires.
Ok, je note, c'est très très bien. Merci beaucoup de votre temps.
Eh ben, merci à vous.
Au revoir.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Eh ben, moi je m'appelle Aude, je suis avec ma famille, mes deux enfants, mon mari, et on se balade au Geekfest.
Qu'est-ce qui vous a amené au Geekfest aujourd'hui?
Alors on ne devait pas venir et en fait on a eu des invitations, donc on est venu voir le mini cosplay et la présentation de Taekwondo, et là on se balade. Voilà.
Et qu'est-ce qui fait que c'est sympa de venir au Geekfest aujourd'hui?
C'est l'ambiance, les déguisements, de retrouver les copains, de voir les animations qu'ils présentent.
C'est la première fois que vous venez au Geekfest?
Oh non, 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 je sais pas, ça doit faire la troisième, quatrième. Tu sais plus?
C'est pas grave. C'est quoi pour vous l'élément phare en fait du Geekfest? Qu'est-ce qui fait qu'on vient absolument au Geekfest?
Les enfants.
Les enfants. Et est-ce que les enfants ils veulent répondre un petit peu?
Ouais, il a mal à la gorge.
Ah ouais. Non. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez accepté de venir au Geekfest?
L'ambiance est plutôt sympa. Effectivement, ça permet, oui, mais ça permet aussi de voir des gens qui font des présentations qu'on peut connaître, tout ça, puis des déguisements qui sont toujours rigolos à voir. Il y en a qui sont bluffants même.
Vous vous déguisez vous-même déjà ou pas?
Ah, ça arrive. L'année dernière, ouais, quand on était venu, on s'était déguisé.
Ouais. C'était quoi le déguisement?
Alors moi, j'étais en tuxedo masqué.
Personnage de Sailor Moon, hein, c'est ça?
C'est ça.
Et tu étais comment, toi?
Chibi Moon.
Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup.
Eh ben, de rien.
Bonjour. Vous faites... vous avez fait un cosplay, mais quel est votre cosplay? D'où il vient? Et pouvez-vous nous en dire plus un peu sur lui?
Eh bien, j'ai fait Blair de Soul Eater, un vieux manga adapté en animé. Et du coup, là, je l'ai ressorti, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, à l'occasion de la fin de Fire Force, qui est un préquel à Soul Eater. Et du coup, je me suis dit que c'était une très bonne idée de le ressortir à ce moment-là, parce que du coup, comme le personnage était un peu oublié, je me suis dit, bah, ça va remettre des bons souvenirs à tout le monde.
Je suis d'accord, j'aime beaucoup Soul Eater aussi. Ça fait combien de temps que vous faites le Geekfest?
Je dirais que, en tout cas, Angers, je l'ai faite à sa première édition, donc on est à la... je sais même plus à quelle édition on est.
La septième, je crois.
La septième. Bah, du coup, c'est ma septième édition de Angers Geekfest.
Oh, sympa. Moi, je sais plus. D'après vous, il y a plus de cosplayers cette année ou pas?
En vrai, j'ai l'impression que le cosplay, ça augmente d'année en année. Donc, je pense qu'il y a plus de cosplayers que l'année dernière encore. Et c'est vrai que du coup, quand on regarde un peu partout dans les allées, il y en a à chaque coin de rue. Et du coup, c'est trop cool. Je trouve que ça anime de fou l'animation sur toute la zone. Ça anime partout. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a quand même plus de cosplayers que l'année précédente.
D'accord. C'est quoi l'élément que vous appréciez le plus au Geekfest?
Honnêtement, je trouve que c'est... hyper bien animé et les gens sont tous bienveillants, il n'y a pas de problème là-dessus. Je trouve que, au niveau d'un. Enfin, en tant que cosplayer, je trouve que la sécurité c'est quand même vraiment très bien. Les gens prennent pas des photos n'importe comment. On se fait pas embêter ou quoi. La sécu est cool. On n'est pas alpagué par des gens un peu bizarres ou quoi. Donc c'est trop trop bien de ce point de vue là surtout. Et au niveau animation, après, je trouve qu'il y a des bonnes choses. Et sur la scène principale, il y a beaucoup de choses à voir. Et du coup, ça, c'est vraiment bien aussi.
C'est très très fun, on est d'accord. Est-ce que vous continuerez à venir au Geekfest?
Oui, comme d'habitude, tous les ans, toujours rendez-vous aux mêmes dates.
Bah, c'est bon, merci beaucoup de votre temps.
Merci à toi.
Donc, bonjour. Est-ce que vous pouvez... Vous pouvez nous parler un peu de votre cosplay et de son univers?
Le cosplay, c'est des gardiens de l'apothicaire Mao Mao. C'est une jeune fille du coup qui s'est fait retrouver du coup à la comment c'est dans le palais royal en fait en tant que servante, et elle se retrouve en fait entre plusieurs concubines par rapport au fait que elle a pu sauver l'un des enfants de l'empereur mais pas le deuxième, et du coup elle doit servir notre chère concubine qui est juste à côté de moi.
Oui, c'est ça. Du coup, c'est intéressant parce que c'est un manga qui, à la fois, amène des enquêtes dans le palais royal de l'empereur, donc en Chine, et du coup, derrière une histoire d'amour et beaucoup de suspense sur les histoires de chaque personnage. Voilà. Et on incarne chaque personnage du manga, quoi. Voilà.
C'est surtout, je pense, pour moi, c'est mon personnage préféré déjà. Et pour toi?
J'adore sa personnalité.
D'accord, merci. Ça fait combien de temps que vous faites le Geekfest?
On va dire que c'est la troisième fois que j'y vais.
Ok.
Moi, la première, vu que je suis pas de Angers, mais très belle découverte.
D'accord. Et est-ce que vous comptez revenir l'année prochaine?
Je pense, oui. Si mes amis veulent bien, oui, je vais revenir.
Dans ce cas, on reviendra.
D'accord. Quel est votre élément préféré au Geekfest?
Je dois dire que j'aime beaucoup les cosplayers. Avec la diversité et vraiment le travail qu'ils font, c'est vraiment magnifique.
Tout pareil, exactement pareil, oui.
D'accord. Merci de votre temps et...
Je vous en prie.
Est-ce que je pourrais connaître vos cosplays et leur univers un peu?
Allez, je commence. Alors, moi je m'appelle Elle, a.k.a. Average Baguette. J'ai bougé, Average Baguette. Je fais du cosplay depuis 2006. Mon cosplay, c'est une version de Bowser, version féminine de guerre de Bowser. Voilà. Et voilà.
Moi, mon nom de cosplayer, c'est Semio. Ça fait un an que je fais du cosplay. Et mon personnage, c'est le vendeur de masques dans Zelda.
D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites le cosplay à l'Angers Geekfest?
Moi, je viens à l'Angers Geekfest depuis que c'est ouvert, parce que c'était une toute petite convention, mais ça a été hyper bien organisé pendant le Covid. Et du coup, comme les gens sont hyper sympas, je reviens chaque année. À la base, j'habite à Nantes, donc chaque année, je reviens pour l'Angers Geekfest. Donc ça doit être la quatrième fois que je viens, la troisième, je sais plus. J'ai arrêté de compter. Okay. Quatrième, je crois. C'est la quatrième édition?
Non, c'est la septième.
Septième? Waouh, j'en ai raté deux. C'est la quatrième fois que je viens.
Moi, c'est la toute première fois que je fais cette convention-là. J'essaie de me libérer du temps pour faire des conventions et je crois que ça doit être la sixième fois que je présente mon cosplay. Ou que je fais du cosplay, tout simplement. J'en ai qu'un.
D'accord. J'aime beaucoup votre cosplay.
T'as combien de cosplays, du coup?
Un seul. Un autre en projet.
Ah oui, mais c'est...
Les masques.
Il se passe plein de trucs.
C'est ça. Okay. J'ajoute petit à petit.
Je dois en avoir 15.
Wow.
Mais c'est que des trucs qui prennent beaucoup de temps. Et en fait, j'ai plein de versions. Donc j'ai celle-là avec une jupe. J'ai la version Oktoberfest où j'ai des chopes de bière. J'ai une version avec une épée. Mais la base est toujours la même. Juste à racheter des accessoires.
D'accord.
Donc 15, ça va vite.
Waouh.
Est-ce que vous avez l'intention de refaire le Geekfest l'année prochaine?
Oui.
Carrément.
D'accord. Avec les mêmes cosplays ou pas?
Ça dépendra de l'humeur. Normalement, je serai Yoshi.
Moi,
je suis plutôt rétro gaming. Moi, j'aime les vieux jeux. Et des fois, personne qui suit, mais bon.
J'aime beaucoup aussi.
Merci. Team Nintendo.
Je serai toujours en vendeur de masques, mais j'aurai beaucoup d'autres masques à proposer. Je vais essayer de les tourner petit à petit.
Ah, c'est sympa comme concept.
Team Nintendo aussi.
Peut-être que je me mettrai en Link, comme ça on pourra. On va y réfléchir. Il y a peut-être un truc qui est en train de se faire. Ça peut être cool.
Qu'est-ce que vous trouvez le plus sympa dans le Geekfest?
dans le
Geekfest.
Moi, je dirais la taille, parce qu'on a quand même de la place pour se déplacer. Le prix, compte tenu de la taille, et la variété des stands et les gens. Tout le monde est sympa, en vrai. C'est accessible. J'aime bien.
Pareil, la taille, le fait qu'il y ait différentes zones un petit peu partout, que ce soit relativement accessible à tout le monde. Je vois des gens passer en fauteuil sans être trop gênés, parce que les allées sont assez grandes. Et c'est vrai qu'au niveau du prix aussi, c'est moins cher que d'autres conventions qui sont parfois plus petites. Voilà.
D'accord, bah, merci de votre temps.
Merci à toi.
Merci à vous.
Bon, bonjour. Depuis quand vous faites le Geekfest comme ça?
Bonjour, c'est la deuxième année que je fais le Geekfest à Angers.
C'est très fun. Vous pouvez nous présenter un peu ce que vous faites?
Oui, alors moi ce que je fais, c'est des créations autour de l'univers du jeu de rôle. Donc de tout ce qui est dés de jeu de rôle. Je crée des potions lanceurs de dés avec à l'intérieur du coup, le petit dé qui roule dedans sa potion magique. Et des dés, tout simplement, mais aussi des bijoux avec des dés dessus. Voilà, plein d'accessoires pour rôlistes.
D'accord. Ah oui, pourquoi vous faites ça?
Alors j'adore le jeu de rôle et surtout je suis une amoureuse du dé et des formes qu'il a. Et du coup, j'ai eu envie d'en créer moi-même, de l'enfermer dans des potions. Et puis, bah, puisque ce n'était pas encore assez, je l'ai monté dans les bijoux pour pouvoir le porter toujours sur moi, avoir un dé. Voilà.
Je comprends. J'aime beaucoup les dés aussi, c'est très fun. D'accord. Vous faites d'autres festivals que le Geekfest ou pas?
Oui, le prochain est à Ségret en Anjou Bleu, Fusion Event. Et sinon, ça va être Terre de Rohan dans le Morbihan.
D'accord. Où est-ce qu'on peut acheter vos créations en dehors des festivals?
On peut retrouver ma boutique en ligne sur SumUp d'Amina et le lien est directement sur Instagram.
Vous comptez refaire le Geekfest l'année prochaine ou pas?
Oui, normalement, s'ils veulent bien de moi, je serai là.
Est-ce que vous avez un réseau social ou un endroit où on peut vous retrouver?
Oui, on peut me retrouver sur Instagram avec sur d'Amina.
Très bien, merci beaucoup pour votre temps.
Mais de rien, avec plaisir.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ici au Geekfest, pourquoi?
Pour présenter du coup mon projet, du coup je fais un manga qui s'appelle Prayer Blossom, c'est de l'auto-édition, c'est prévu pour minimum 5 tomes, et après je propose aussi toutes mes illustrations qui sont en noir et blanc et qui sont faites à l'encre de Chine.
D'accord. De quoi parle votre manga?
On va suivre l'histoire du jeune homme qui est sur la couverture, qui s'appelle Jaka, et du coup il va découvrir son village à feu et à sang, et vu qu'il retrouve aucune trace des auteurs du massacre, il va entamer un long périple, et malheureusement il va perdre petit à petit la mémoire, et c'est à ce moment-là qu'il va faire la rencontre d'une jeune femme qui va le guider jusqu'à sa ville, et en la parcourant il va petit à petit résoudre le mystère derrière son village, pourquoi il a été ciblé.
C'est très intéressant.
Oui, merci. Pour parler du projet, en gros l'objectif c'est de faire 5 tomes minimum, et en gros il est financé par des campagnes Ulule. En gros c'est une plateforme française où on propose un projet n'importe quel domaine. Là en l'occurrence c'est du manga, c'est un livre, et du coup si les gens sont intéressés ils participent et ça me permet de financer le bouquin. Donc moi je veux pas passer par la case de maison d'édition parce que ça m'intéresse pas, mais du coup ça permet d'être plus libre. Après c'est beaucoup plus de boulot parce qu'il faut s'occuper de la distribution, mais c'est hyper intéressant de voir le côté on va dire sombre des maisons d'édition.
D'accord. Est-ce que vous avez une source particulière d'inspiration ou ça vous est venu comme ça?
Alors l'histoire elle m'est arrivée quand j'étais au lycée, donc ça date depuis de 10 ans, mais je l'ai rafistolée un petit peu, et puis je me suis pas mal inspirée de tout ce qui est de Miyazaki, des studios Ghibli. Après il y a aussi pas mal de Vinland Saga, Berserk, un peu de l'univers on va dire que Dark Fantasy.
Et ben c'était très bien. Vous le conseillez à partir de quel âge?
Alors ça dépend de la lecture, mais à partir du moment où le jeune enfant, on va dire, lit l'attaque des titans des Monster, pour moi c'est ok.
D'accord.
Donc 12, 13, ouais voilà.
Est-ce que vous avez déjà fait le Geekfest avant?
Ça va faire 4-5 ans que je fais le Angers Geekfest.
D'après vous, qu'est-ce que c'est que le meilleur élément du Geekfest?
Le meilleur élément, je dirais que c'est l'accueil et l'organisation de l'événement, vu comment c'est mis en place au début, avant qu'on arrive.
C'est vrai. Vous croisez plus de cosplayers ou de gens qui sont juste venus visiter?
De cosplayers ou de...
De cosplayers ou de gens habillés normalement?
Là où cette année, il y aura plus de cosplayers, je trouve, que l'année d'avant.
Je suis d'accord. Sur quel prochain festival on pourra vous retrouver pour financer le projet?
Alors, prochain festival, j'ai la Japan Tour qui est au mois de juillet. Après, j'ai plein de petits salons de BD qui sont un peu partout en France, mais je suis majoritairement dans l'Ouest, on va dire, jusqu'à la fin de l'année. Et après, les campagnes Ulule, elles se font tout le mois d'octobre, novembre de chaque année. Il y en a une par an pour pouvoir financer ainsi de suite la série. Et après, je ne sais plus s'il y avait une autre question, mais... Alors majoritairement sur Instagram avec alors ça s'écrit Gigi, donc c'est GIGHI.E et voilà, on me retrouve sur ça.
D'accord. Bah, on va vous laisser.
Et bien, merci beaucoup en tout cas, et puis je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end.
Merci, c'était très intéressant.
Et merci.
Bonjour, ça fait combien de temps que vous faites le Geekfest toutes les deux?
Eh bien, pour le coup, pour toutes les deux, c'est la première fois. On représente les musées d'Angers et cette année, exceptionnellement, les musées ont deux expositions à promouvoir sur le thème de la fantasy, puisqu'on parle de la Terre du Milieu. Donc c'est la première fois qu'on a l'occasion de venir présenter ça au Geekfest.
Et que propose votre stand ?
Nous, notre stand est là pour présenter donc les deux expositions dont vient de parler Estelle. Donc une exposition qui a lieu au musée Jean Lursay de la tapisserie contemporaine autour de la tendue Robuson-Tolkien et une exposition au muséum des sciences naturelles qui s'appelle Voyage en Terre du Milieu autour d'un cabinet de curiosité de la Terre du Milieu. Et donc nous, on est là pour présenter ces deux expositions et idéalement donner envie aux visiteurs de venir nous voir dans les musées à Angers.
Pourquoi il y a une exposition sur Tolkien au musée actuellement ?
Alors, pourquoi Angers ? Alors, nous, en tout cas, pour l'exposition Aubusson-Tolkien, donc qui est au musée de la tapisserie contemporaine et Jean Lursa, on a une particularité, c'est que d'ordinaire, on accueille une tenture qui s'appelle la tenture du Champ du Monde. Cette tenture du Champ du Monde, c'est une tenture qui a été imaginée par un artiste qui s'appelle Jean Lursa. Jean Lursa, qui est un parfait contemporain de Tolkien, ils sont nés la même année, en 1892. Et Jean Lursa, il a imaginé une très très grande tenture qui fait un peu écho à la tapisserie de l'Apocalypse qui est au château. Et nous, on l'a depuis 1968 dans les musées d'Angers. Elle n'est partie qu'une seule fois en 1998 pour aller à Hiroshima, au Japon. Et sinon, elle n'a plus jamais quitté Angers. Et donc, nous, on a fait un échange de tapisseries. La tapisserie du Champ du Monde, qui a été tissée à Aubusson dans les années 50-60 pour Jean Lursa, elle repart à Aubusson cette année. Et en échange, nous, on récupère la tenture Tolkien, qui est une tenture qui a été réalisée sur une grande dizaine d'années. On est aux alentours de 12 ans de travail. Et donc, nous, on a récupéré cette tenture qui est composée de tapisseries, donc qui sont des arts textiles qu'on va accrocher plutôt sur des murs, réalisés par des artistes lycéens, mais aussi des tapis, dont un tapis qui est présenté accroché à un mur, mais autour de l'univers de Tolkien. Donc, on a fait un échange, finalement, de bons procédés. On leur a prêté le Champ du Monde et eux nous ont prêté la tenture Tolkien.
Vous pouvez nous m'en dire plus sur Tolkien ?
Alors, Tolkien, c'est un auteur anglais qui a vécu plutôt au XXe siècle et il a fourni toute une œuvre autour d'un univers qu'il a appelé donc la Terre du Milieu. Et donc ses œuvres les plus connues, ce sont Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux. Et donc il a créé tout un légendaire et tout un univers fantastique peuplé d'elfes, de nains, de mages, etc. Et donc il s'est inspiré hein, de plein de choses qui se trouvent aussi dans notre terre réelle. Et donc ce qu'on trouve intéressant, c'est de pouvoir justement mettre en valeur toute la création de Tolkien à travers les illustrations qu'il a réalisées pour ses ouvrages qui ont été traduites en tapisserie au musée de la tapisserie contemporaine et Jean Lursa. Et dans le cabinet de curiosité, du coup, on a aussi intégré plein de créatures qui peuvent faire office, enfin qui peuvent faire penser à la Terre du Milieu et à toutes les créatures fantastiques qui la peuplent. Donc voilà, Tolkien, il a vraiment créé tout cet univers-là et ça permet aujourd'hui justement de nourrir ces deux expositions.
Quand est-ce qu'on pourra la voir et quand est-ce qu'elle va repartir ?
Alors pour la tenture Tolkien, donc on la présente au public depuis ce vendredi et elle sera visible jusqu'au 8 novembre 2026. Là où le Champ du Monde reviendra. Et pour le cabinet de curiosité au Muséum des sciences naturelles, ce sera un tout petit peu plus long puisqu'on est sur une exposition qui va durer un an et donc qui aura lieu jusqu'au 23 mai 2027 cette fois-ci.
C'est très intéressant. Est-ce que c'est payant ?
Alors les musées sont accessibles les expositions sont accessibles au musée au tarif habituel. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Du coup, l'accès au musée Jean Lursa est au prix de 6 euros en tarif plein, avec des demi-tarifs pour certains cas particuliers, les demandeurs d'emploi, etc. Et le prix d'entrée au muséum est de 4 euros. Et il faut savoir que tous les musées d'Angers, ça peut être intéressant de l'avoir en tête, sont gratuits sur leur dernière heure d'ouverture de 17h à 18h tous les jours, sauf le lundi. Donc c'est bon à savoir. Et bien sûr, tous les musées aussi à Angers sont gratuits pour les moins de 26 ans.
D'accord, je note. Okay. Vous pensez que vous reviendrez l'année prochaine ou pas ?
Eh bien, tout dépendra du programme d'exposition et des actualités des musées. C'est pas souvent qu'on peut présenter des œuvres de pop culture et de culture populaire. Donc, peut-être, qui sait, on peut pas dire oui ou non. En tout cas, voilà, ça dépend vraiment des actualités des musées. Donc, actuellement, on peut pas répondre.
Et vous aimeriez venir ou pas ?
Bah, c'est vrai qu'en tout cas, nous, on n'est présente que ce dimanche. On avait les collègues qui étaient là hier samedi. On trouve que l'ambiance est plutôt sympa, les visiteurs très intéressés de ce que l'on propose. Donc, si l'occasion se présente, on reviendra avec plaisir. Mais il faut que l'occasion puisse se présenter.
D'accord, merci de nous avoir consacré votre temps.
Un grand merci à Carence pour sa collaboration. Et j'espère que l'année prochaine, elle aura envie de revenir et de créer un nouveau reportage.
Radio G 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Baladou, poum poum. Allez, on est de retour sur le 101.5 de Radio G. Je me laisse aller à quelques vocalises.
Mais oui, c'est une BO. Je me suis dit, tiens, on va réécouter un peu de musique d'animé après avoir passé deux jours au Parc Expo.
C'était dépaysé. Hein.
Et donc, c'était la musique de Metropolis, donc un film d'animation de Rintaro. Je ne peux pas dire le nom du compositeur.
Mais si, c'est Toshiyuki Honda.
Et donc, avec une BO assez surprenamment, plutôt musique New Orleans quand même.
Ouais.
Il y a quelques plans un petit peu électro des fois qui nous réveillent, mais très bien. Et puis je me suis réécouté ça parce que je suis en mode, je passe en mode cartoon là. Mais on en reparlera de Hell of a Town. Yeah. Je ressors un peu ces trucs là. Et donc moi je suis revenu de l'Angers Geek Fest avec le MOOC qui sortent pour chaque édition, M42. Et cette année, c'était Les Mondes de la Fantasy. Donc un joli bouquin de 200 pages avec plein de petits articles. Il y a des choses qu'on a retrouvées, les gens qui ont écrit les articles étaient là pendant le festival à redévelopper ça un peu en conférence. Et puis sinon, il y a des choses qui sont arrivées un peu dans leurs expos. Notamment, moi j'ai beaucoup aimé cette expo sur le matériel un peu des Mondes de la Fantasy. Enfin surtout... il y avait plein de très belles épées, hein, plein des répliques d'épées connues qu'on voit dans des films de fantasy ou alors
dans des jeux vidéo. Aussi.
Tout à fait, dans des jeux vidéo, plein de choses intéressantes. Dans le MOOC, il y a quelques petits articles qui vont intéresser les rôlistes. Par exemple, tout savoir sur Donjons et Dragons en 6 pages quand même. Donc voilà, pour ceux qui
on sait vraiment tout en 6 pages.
Eh ben tu vois, moi j'ai appris un truc. Quand même, dans cet article de Manon Tardy, c'est que le personnage du clerc, qui est pas trop un genre de cliché qui nous vient de Tolkien, par exemple. Et ben en fait, c'est parce que Dave Arneson, donc un des deux créateurs de D&D, était fan des films de la Hammer. Et les films de la Hammer dans les années 70, c'était souvent des gens un peu, alors, peut-être pas forcément d'église, mais qui se battaient contre des vampires avec des crucifix, quoi. Voilà. Et donc, en fait, ça vient de là. C'est pas un truc qu'on a été chercher, comme Tolkien, par exemple, a été chercher des nains ou des elfes dans des folklores nordiques. Il y a un article aussi sur les cartes en fantasy, bien plus qu'un simple décor. Un article, donc, du cartographe, qui avait quelques trucs qui étaient exposés à l'AGF. Et puis, sinon, un article aussi, Conan le Barbare ou le puzzle cimérien. C'est toujours intéressant. Toutes les déclinaisons de Conan depuis les grandes nouvelles de Robert Howard dans les années 30. Et puis il y a aussi un article musique et chant de la fantasy, donc ça c'est bien aussi des fois pour ambiancer ces parties de jeux de rôle de Medfan, avec un entretien avec Dana Howe. Alors du coup, Howe ? Alors déjà, c'est le fils de John Howe.
L'illustrateur,
ouais, okay. Illustrateur très associé quand même à Tolkien, hein,
quand John même beaucoup,
ouais. Et donc son fils est lutte. Alors que c'est un joueur de lutte, pas luthier, lutteur.
C'est ceux qui réparent les violons. Et...
Bref, luthériste. Je ne sais plus.
Lutteur.
Joueur de lutte, c'est bien. Hein.
Ouais, et comme son papa avait travaillé, il avait fait, il me semble, aider un peu à créer l'univers des films de Peter Jackson, tiens, mon fils et tout, c'est un peu une star du luth dans la musique baroque et tout, notamment en Italie. Et il a participé donc à l'enregistrement de la BO pour, c'était Howard Shore, hein, le compositeur des musiques des adaptations de Tolkien par Peter Jackson. Et donc, il raconte sa session d'enregistrement à Abbey Road. Donc plein de trucs vraiment intéressants. Puis c'est aussi une réflexion, cet article, sur qu'est-ce qu'on utilise comme musique pour ambiancer, du médiéval fantastique, sachant que déjà ce sont des mondes imaginaires. Et puis même dans le médiéval, il n'y avait pas l'orchestre à cordes de Howard Shore à l'époque pour faire la musique.
Ouais, c'était plus compliqué quand même.
Voilà.
Ok,
donc ce MOOC, 29 euros qu'on trouve encore sur le site de l'agence Leno, je crois. Enfin, c'est aussi le club Arthur Dent qui édite ça. Donc Arthur Dent qui est un personnage du guide du routard galactique. Ça et c'est pour ça que ça s'appelle M42 d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Le guide du voyageur galactique.
Voili voilou.
D'ailleurs, si vous avez l'occasion de le lire, vous allez avoir un petit récap de toutes les nominations en français qu'il a pu avoir, parce qu'il y a eu des moments où ça a changé, il y a des magazines, des petits journaux qui ont dit « Ah non, ça c'est notre nom, on n'a pas le droit », puis au final ils ont perdu, et puis ils ont fait « Bon, on reprend le nom d'avant ». Enfin, Il y a moult versions du nom de ce...
Ouais, tiens, excuse-moi.
Oui, je... Non, non. Vas-y.
Je vois aussi, il y a quand même un article de Thomas Rouillard, qui est le monsieur qui a fabriqué le cabinet de curiosité. Il travaille au Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers. Oui. Donc l'expo qui vient d'ouvrir, là, hein, depuis ce week-end. Et il y a aussi un article sur les tapisseries, forcément, de Jean Lursa à Tolkien, en fait, qui donc a été repris par... l'école de tapisserie d'Aubusson qui en 2009 s'est dit bah tiens on va faire des tapisseries de trucs célèbres de la culture pop, donc c'est là qu'ils ont décidé de prendre des illustrations en fait que Tolkien avait dessinées, même il y a des cartes qu'il envoyait, même des cartes de Noël qu'il envoyait à ses enfants qui ont été reprises là et donc dont on a refait des tapisseries de plusieurs mètres de côté, donc vous pouvez voir depuis ce week-end au musée Jean Lursa.
On aura certainement l'occasion d'en reparler avec une interview des gens qui ont chapeauté tout ça. Et on n'est pas tout seul, parce que vous avez pu entendre des petites voix tout à l'heure lorsque Romain intervenait. On est en compagnie de l'Auberge des Rêveurs, c'est ça que je peux le dire, comme ça.
Bien ça.
On va faire un petit tour de table avec les prénoms.
Jérôme.
Sandra.
Et Olivier.
Et pourquoi vous êtes là? Dites-moi.
On va parler du festival, de notre premier festival de jeux de rôle, qui aura lieu le 25 et 26 avril.
Un peu plus près du micro, oui. Sinon on t'entend pas.
Donc, festival de Meugeotterie et Merveilles, le 25 et 26 avril.
Un tout premier festival qui aura lieu à Cornet, si je me trompe pas.
Non, c'est ça.
Ça aura lieu Espace des Trois Cerisiers de rue de Bellevue à Cornet.
C'est bien ça.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver lors de ce premier festival? Je Alors, tape dans le brut direct, comme ça.
Ouais, effectivement, là, c'est direct, c'est brut de pomme. Alors, lors de ce premier festival Meugeotterie et Merveilles, il faut savoir déjà qu'on a opté pour un festival 100% jeu de rôle. Okay. Jeu de rôle sur table. C'est notre volonté de base. Pour le faire découvrir au plus grand nombre, les débutants, comme pour attirer les rôlistes aguerris. Donc le but, ça va être effectivement de proposer des tables de jeu. On aura 32 tables de jeu sur l'ensemble du week-end, sur des jeux de rôle très divers, de thèmes variés, autant de l'horreur que de la science-fiction, que des choses un tout petit peu plus mignonnes comme Donjons et Chatons,
okay.
Par exemple, qui est un dérivé du coup de Donjons et Dragons pour les habitués. Et donc... Ça sera à la fois de la découverte, de l'initiation pour les non habitués et puis pour les rôlistes un petit peu plus aguerris, ils pourront amener leurs pattes et puis justement amener une partie d'un level un petit peu plus élevé. Après, pour initier également les gens qui sont débutants, on aura un bar à jeux de rôle qui sera à disposition.
Avec de la bière et tout, non?
Ouais, absolument. C'est un peu le credo des rôlistes, ouais, sinon ce serait pas
nous
drôle.
Nous sommes sur Radio G.
Non, mais
surtout des petits jeux qui sont lancés potentiellement, qui peuvent être lancés en 10 minutes pour des parties qui peuvent durer jusqu'à une à deux heures.
Vraiment faire de l'initiation complète. Ok, ça c'est très cool comme initiative.
En parlant de parties de deux heures, on voit sur votre programme, c'est quasiment que des parties de deux heures qui sont prévues. Vous avez un petit peu imposé ça.
Ouais, dans la journée, on a imposé deux heures. Et 4 heures le soir. En fait, on s'est dit, pour les non-initiés, 2 heures, ça peut paraître long d'être assis sur une chaise. Surtout qu'il va faire hyper beau, il faudra justement aller au bar se rafraîchir. Donc, on a opté pour ça, 2 heures. Après, il y en a qui nous ont demandé de regrouper les 2 heures et de pouvoir faire 4 heures dans la journée. Donc tout est possible, tous les formats sont possibles, c'est modulable. Et par contre, le soir, le samedi soir, on a une session spéciale, 20h minuit, où on va faire du 4 heures de jeu de rôle un peu plus à l'ancienne, ou un peu plus long, avec des intrigues intrigantes.
Avec des... Oh. Top. Revenons un peu aux origines. Vous avez choisi de faire un festival de jeu de rôle exclusivement. Est-ce que ça veut dire que les organisateurs ne font pas que ça à la base? Et qui sont les organisateurs, du coup?
Alors, si, effectivement, on fait l'association L'Auberge des Rêveurs, ne fait pratiquement que du jeu de rôle. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait promouvoir notre activité à travers ce festival. Après, on a d'autres activités. On peut faire un peu de jeu de société de temps en temps quand on fait des moments conviviaux. On a cette année aussi un amateur de jeux de figurines avec HeroQuest, qui a toute une table de vraiment 3D avec tout un donjon qu'on peut explorer avec ses figurines. Donc, ça, c'est des parties qu'on fait de plus en plus aussi, qu'ils proposent aussi pendant nos soirées.
Et du coup, c'est l'Auberge des Rêveurs, c'est du coup une association, c'est quoi comme structure ?
Oui, c'est une association qui existe depuis 2019, décembre 2019.
Okay.
Donc, qui a réuni des passionnés de jeux de rôle à la base. On a créé notre association et puis depuis, on fait que de grandir.
Ouais, on a été créé juste avant le Covid et on a basculé rapidement sur le Discord pendant le Covid. Et c'est pour ça aussi qu'on dit voilà du jeu de rôle papier parce qu'on nous a posé la question de savoir si on envisageait des parties en dématérialisé, des parties sur le Discord parce qu'il y a des festivals qui se font aussi sur Discord. C'est pas le principe en fait de ce festival là, c'est vraiment festival jeu de rôle papier et comme l'a dit Jérôme, c'est l'activité principale de l'Auberge des Rêveurs, donc ça nous semblait logique.
Normal. Il y a combien de membres dans l'Auberge des Rêveurs aujourd'hui ?
40.
40 membres.
41.
OK. Tous sur Cornet ou il y a un point de centralisation qui est Cornet. Alors j'imagine que l'espace des cerisiers, c'est peut-être le repère, on va dire, de l'Auberge des Rêveurs.
Le local. C'est une ancienne école, donc c'est notre local. Ouais, on a une pièce, une ancienne salle de classe.
Par contre, les rôlistes,
on en a qui sont à 3, par exemple, qui ont été mutés par leur travail et qui ont sont restés dans l'association. Donc, c'est pour ça aussi qu'on propose des parties sur Discord. Ouais. Pour pouvoir garder contact avec des amis, hein, parce qu'au final, au bout de 6 ans, ça devient des amis, quoi. Et après, oui, on rayonne beaucoup sur Loire-Authion et aux alentours, donc un petit peu Angers, on va graviller jusqu'à Avrillé quand même, et Beaufort-en-Vallée, Beaufort-en-Anjou, je sais plus.
Ouais, mais, le nom, il change. C'est...
Voilà, mais du coup, on rayonne quand même un petit peu, je pense qu'on commence à être un petit peu connu. Et du côté de Nantes aussi et de alors on a même un adhérent qui est dans la forêt de Brocéliande.
Ah oui, effectivement.
donc on l'a retrouvé donc on a un peu de partout mais globalement la majorité quand même est concentrée sur Loire-Authion et les alentours proches quoi.
Comment est venue cette idée justement de dire tiens aujourd'hui on joue ensemble, on a une association qui fonctionne sur le jeu de rôle, on a envie de faire un festival, c'est juste l'idée de faire découvrir aux gens en plus ou autre chose.
Alors
c'est un rêve d'enfant d'Olivier je pense.
En fait quand gamin je rêvais de pouvoir jouer avec les auteurs des livres de jeux de rôle quoi, mais bon jouer avec des gens qu'on fait Donjons et Dragons, c'est pas évident, surtout quand ils sont américains et décédés. Mais là, on s'est dit, j'en ai discuté avec Sandra, et l'idée est venue de faire un festival local déjà. Donc, on a été chercher des auteurs, du côté de Nantes, du côté de Cholet, parce qu'à Loire-Authion, j'en ai pas trouvé. Et voilà, l'idée c'est vraiment de créer un moment de partage entre l'auteur, l'artiste et le joueur, et de façon à ce que il puisse mener une partie. Enfin, moi j'aurais adoré justement, en étant gamin, pouvoir assister à une partie où le meneur de jeu c'est le créateur du jeu, quoi. Il y a pas mieux, enfin à mon sens. Et du coup là c'est ce qu'on voudrait proposer aujourd'hui aux gens, quoi.
Alors du coup, on pourra voir qui sur place.
Alors sur place, il y a Sylvain Garnier qui est l'auteur et créateur d'Elestria, donc c'est un monde féerique d'élémentaire, un peu à la Maître de l'air, pour faire un raccourci. Il y a Xavier avec 4 i qui propose les miaulements des chats d'Ultar et The Caravan, donc c'est un peu plus sombre.
Il a déjà été interviewé dans cette émission il n'y a pas si longtemps, hein, Xavier.
Ouais. Xavier, vous l'avez eu ?
Ouais.
Ok. Bah du coup, il revient. Julien Léon, qui lui est plus sur le YouTube Game avec devenir maître de jeu.
Ok.
Et du coup, qui propose lui Sérum et Immortal Gobelin. Voilà, deux de ses créations aussi.
Donc ça, c'est des jeux qu'on va pouvoir retrouver lors du festival. On va pouvoir jouer avec les maîtres, enfin les créateurs du jeu. Il y aura quoi comme autre jeu de proposer? Est-ce qu'il y a déjà une liste définie ou est-ce qu'on peut la trouver ailleurs?
Alors, moi, en créateur de jeu, à l'Angers Geek Fest, j'ai parlé avec les arts ludiques.
Oui.
Et puis sur leur stand, ils proposaient un truc qui s'appelait Imagination. Et je me suis dit, ah, mais j'ai vu ce nom dans la programmation de Me Jeterai Merveille. On dit, bah oui, mais c'est nous qui l'avons inventé. Et oui. C'est nous qui le ferons jouer.
Alors, ils m'ont pas notifié que c'était eux les créateurs de l'imagination, justement. Ouais. Mais ils y seront. Et les arts ludiques seront, ont des représentants et ils vont effectivement proposer des parties tout le week-end.
Sinon, on va trouver du Donjon de Crawl classique et Ninja City.
Oui, parce que les Kung Farmers de l'Anjou auront une table pendant les deux jours.
Je vois aussi du Donjon et Dragon, du Immortal Goblin, on en a parlé, Serum, One More Quest.
On sera pas trop assis autour de la table, hein, parce que j'en ai déjà parlé dans cette émission.
Mmh, oui.
Donc c'est ce jeu qui va donc bientôt sortir chez Entremonde Édition. Voilà, on a retrouvé. Et tu lances les dés sur une cible. Et en fait, en fonction de la compétence qui est mise en jeu, la façon de lancer est différente. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui devait lancer le dé avec ses hanches, tout en faisant le meilleur score possible sur la cible au milieu. Donc c'est un jeu d'adresse, de rôle, mais d'adresse notamment.
Ça a l'air très drôle en tout cas.
Oui, on sait bien.
Oui. Pour le coup.
Voilà, donc une programmation qui est déjà quand même pas mal bookée. Il y a aussi de l'anneau unique qui est animé par un de nos MJ de l'association.
Oui, on a également Toulou et SCP qui est animé aussi par un de nos MJ de l'association. Ouais.
Oui, je sais qu'il y aura aussi François des Conjurés du Temporel, mais qu'on a reçu dans cette émission il n'y a pas si longtemps, qui vient faire jouer un truc le dimanche après-midi. C'est de l'Appel de Cthulhu un peu historique. Souvent, François, il s'inspire un peu des choses qui sont dans le coin.
Non,
je l'ai peut-être pas trop appelé comme ça.
Mais je crois qu'il y a un autre.
Une histoire de spiritisme. Voilà,
ouais,
ça,
peut-être ouais. Bien, oui. Ouais.
Mais on rencontrera pas que des auteurs de jeux de rôle. Il y a d'autres gens qu'on va pouvoir rencontrer, si je me trompe pas.
Oui, il y a aussi des artistes, donc des illustrateurs, en premier lieu, qu'on a réussi à faire venir. Alors, c'est des gens, donc il y a Pierre Vrignot.
Et c'est Rackham Leroux, son nom de...
Rackham Leroux, exact. C'est lui qui m'a contacté, du coup, en me disant, j'ai vu que vous faisiez un festival, est-ce que je peux venir? Volontiers, avec plaisir. Après, on a Elliot Jolivet, donc là, c'est une petite touche perso, puisque c'est un illustrateur qu'on connaît, et c'est un copain, donc on l'a invité en premier lieu. Et après, on a aussi des artisans qui vont être là, donc des artisans qui travaillent le cuir, notamment des armures pour le Grandeur Nature. Donc c'est assez en lien quand même avec le jeu de rôle. Et après, un autre artisan qui lui travaille des pièces un peu plus petites, mais où ça va être des dés. Il a un laser, donc il peut graver des dés, il peut graver des pièces sur mesure. Donc voilà, ça va être donc lui c'est Hans Pon Dice, je crois.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc
et Amy Corso aussi qui est illustratrice.
Et Amy Corso, oui, exact, une illustratrice qui est un peu plus dans le côté kawaii comme disent les jeunes ou merveille, donc qui sera un peu plus rose.
Qui était à l'Angers Geek Fest, sauf erreur de ma part. Ok, ça fait beaucoup de monde, donc j'imagine que vous avez beaucoup de bénévoles pour gérer le festival.
Ou des bénévoles merveilleux.
Ou des bénévoles
merveilleux. Qui ont plein de bras.
Des elfes de maison qui travaillent.
C'est ça, on a des petits dobbies en fait.
Des poulpes.
Ouais, j'ai cru comprendre que vous aviez quand même besoin de mains supplémentaires.
Oui, tout à fait. Non, tu fais bien de le souligner, mais effectivement, on est encore à la recherche de bénévoles supplémentaires, parce qu'on a beau avoir une bonne équipe solide, on est quand même en sous-effectif par rapport à ce qu'on attend et par rapport à ce qu'on a envie de donner au public sur ce week-end-là. Donc, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent effectivement se donner de leur énergie, de leur temps et surtout vivre une super aventure humaine, parce que faut pas oublier que les festivals c'est avant toute chose ça, c'est une super aventure humaine et des moments de rigolade à n'en plus finir, même si des fois on a envie de se mettre des claques aussi, mais ouais. Voilà, c'est toujours dans la rigolade.
C'est des gros moments de tension, c'est des moments d'incertitude, c'est ce que tu dis, c'est des moments magique en fait.
Ah oui, complètement. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on signe en général l'année d'après.
Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, vous êtes combien à organiser exactement?
On est une dizaine, si je ne m'abuse.
Alors, dans l'équipe d'Orga, on est une petite dizaine. Et là, on est actuellement une vingtaine de bénévoles référencés.
Ok.
Et donc, sur le samedi et le dimanche, c'est là que vous cherchez des bénévoles, surtout?
Ouais, surtout, ouais. Oui. Parce qu'après, on a le montage, une partie du montage qui va être faite le vendredi.
Alors, c'est le montage de quoi?
Alors, en fait, on a donc l'école Les Trois Cerisiers, qui est une école maternelle, enfin une ancienne école maternelle. Et à ça, on rajoute 4 barnums.
Ah oui,
de façon à pouvoir accueillir donc le bar à jeux de rôle dont on a évoqué tout à l'heure, où il y aura des parties libres, et l'objectif c'est que les gens puissent trouver une place et s'installer tranquillement. Donc là il y aura 2 barnums dédiés à ça, et puis bah les barnums restauration et buvette évidemment. Donc voilà, donc ça c'est le montage le vendredi et le démontage le lundi. Donc après effectivement il y a la tenue des stands et de plein de petits rôles qui vont être à tenir tout le week-end sur le festival.
Sans oublier le pôle restauration, parce qu'on propose un pôle restauration sur l'ensemble du week-end également. Les gens pourront rester pour manger le midi entre les parties, et même le soir avant la grosse partie de la soirée, et le dimanche également, donc sans parler des friandises appréciées des rôlistes, n'est-ce pas?
le rôliste et la diététique, ça a toujours été un grand moment.
Il faudra faire une émission dessus.
Eh ben, écoutez, moi, je vous propose de venir faire les tables rondes avec nous, parce qu'on aura également des tables rondes, hein, des causeries et débats sur le.
Ça
sur
peut
le...
être un thème, ça, non?
Et ça pourrait être un thème. Moi, je trouve que ça pourrait être très intéressant de trouver diététique et jeu de rôle. Le rapport, le rapport.
Si tu veux venir l'animer, voilà, au moins, ce sera avec plaisir.
Exactement. Si je suis déjà sur place. On aura besoin de bénévoles pour animer, voilà.
Ah, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais exemple.
Ah, mais puis la diététique, ça peut tout et rien dire.
Oui, c'est clair.
Ça, ou alors c'est comment corrompre le maître du jeu avec des sucreries.
Ah, ça,
c'est, ouais, de ça marche tellement des M&M's. Bien.
Allez, oui. Surtout les M&M's.
Donc l'espace table ronde un peu autogéré, si j'ai bien compris, par le public.
Alors l'idée c'est que, pardon,
vous imposez pas de trucs, quoi.
On va en imposer un ou deux histoire de lancer la machine. Ouais, ouais. Et après l'idée c'est que le public trouve sa voix et aborde les sujets dont il a envie de parler, quoi.
Sur le site, c'est qualifié de fonctionnement anarchique, freeform, punk. Ça, oui.
Alors, faut en discuter avec l'auteur du coup de la page, qui sera présent et qui va certainement, enfin c'est même sûr, il va animer une table ronde ou deux. Lucas, hein, si tu nous écoutes, on pense
voilà.
À toi.
Voilà.
Mais oui, en fait, l'idée c'est qu'on va avoir effectivement avoir des tables rondes qui seront prédéfinies avec des thèmes prédéfinis qui seront animés notamment par
Sylvain
Garnier, voilà, qui va en animer une. Et puis il va y avoir des tables autogérées où du coup le principe c'est que le public va proposer des thèmes comme on l'a fait là par exemple sur la diététique, on va les inscrire sur un tableau. Après il y aura un thème qui sera retenu et ce sera celui sur lequel
sur un lancer de dés,
va...
j'espère.
Ah bah non, on n'a pas encore voilà, on va pas tout dévoiler non plus nos secrets mais possiblement. Et du coup le principe après ça va être effectivement de gérer ce débat, alors bien sûr avec une personne, un médiateur pour passer la parole, que ce soit égal, etc. Mais c'est que les personnes s'autogèrent en fait sur ce débat-là et le nourrissent. Et ça, je pense que ça peut donner des choses très intéressantes.
Ça peut être très cool. Et puis sur le site, il y a aussi quelques idées qui sont proposées pour ceux qui n'en auraient pas.
Oui.
Ça peut être simplement être auteur de JDR, MJ, ce fabuleux challenge. Comment marier jeu de rôle et politique, par exemple? Là, il y a beaucoup de choses à dire, très certainement.
Oui.
Et partager, raconter votre meilleure scène vécue en JDR. Ça peut être très
cool.
Ah
ouais, ça peut être très cocasse aussi.
Ça peut être très, très, très bon. Ok. Est-ce que vous voyez des choses dont on n'aurait pas parlé?
S'inscrire aux tables de jeu?
Eh ben c'est exactement ce que j'avais dans la tête. Merci. Effectivement, vous pouvez avoir toutes les informations sur le site internet de l'aubergederêveurs.fr. Donc vous avez toute la programmation, les artistes, la présentation des artisans, etc. Le déroulement du week-end, mais également les liens pour pouvoir s'inscrire aux tables de jeux de rôle en tant que visiteur. Et le lien également pour être bénévole, parce que encore une fois, hein, si vous pouvez être si on peut être nombreux, ça vous rendra l'expérience encore plus fantastique, d'après moi. Voilà.
J'ai vu que vous passez par convention rôliste.
Oui. Oui.
Ça a l'air très pratique.
Convention Rôliste et LOASO.
Alors, LOASO, oui, c'est LOASO. Pour le, ceux qui voudraient prendre leur place et payer leur place en avance. Et convention Rôliste, c'est pour...
Quand tu dis prendre sa place, c'est un forfait de 2 euros pour la journée.
Alors oui, c'est 2 euros sur la journée et on offre du coup avec l'entrée un ticket de tombola. Donc voilà, je pense pas qu'on vole les gens. 4 euros sur le week-end avec 2 tickets de tombola du coup. Donc voilà, et donc ça c'est la partie LOASO et la partie convention Rôliste où là du coup c'est gratuit. Et on s'enregistre sur les tables d'animation référencées, donc les 32 tables proposées.
Top.
Voilà.
Je vois pas quoi dire de plus. C'est accessible.
Si...
C'est,
ouais. S'il y a des infos, si vous cherchez des infos, c'est l'aubergederêveurs.fr ou l'aubergederêveurs@gmail.com. Et puis on vous répondra le plus rapidement possible.
On peut vous rejoindre en tant que bénévole, mais est-ce qu'on peut rejoindre aussi l'association en cours de route ou un...
Ah oui, après sur l'année, notre année, on est de septembre à septembre en général. On essaye de caler les AG septembre. Enfin, cette année c'était octobre. Donc, je crois.
Ouais, cette année. Mais...
Et c'est 12 euros l'année. Voilà, 6 euros à partir de la mi-année, février-mars par là, et on peut nous rejoindre. N'importe quand.
Et vos rendez-vous pour jouer dans la semaine, c'est quel jour? Enfin, comment?
En général, c'est le week-end, hein, le samedi soir, samedi dans l'après-midi, okay. Et parfois le dimanche, parce que là, comme on commence à avoir pas mal d'adhérents, donc on étale sur tout le week-end, donc samedi, parfois on a plusieurs parties.
Vendredi,
dimanche,
vendredi soir.
Et
aussi.
Vendredi soir, ouais.
Ah oui. Ça peut être complété par des parties en ligne très souvent aussi dans la semaine, souvent les mercredis et jeudis. les jeudis. Voilà, aussi.
Les étudiants sortent, les rôlistes jouent sur Discord.
Bah, c'est surtout que, comme on disait tout à l'heure, on a quelques adhérents qui sont à distance, sont loin, donc faut aussi leur proposer des choses, donc c'est pour eux qu'on le fait à distance.
Eh ben parfait. On va arriver sur la fin de l'émission. On va peut-être redonner tous les éléments, le site, les dates, le tarif. Je vous laisse faire, ça c'est votre partie.
Eh ben, le festival c'est Meugeotrie et Merveille le 25 et 26 avril. 2 euros pour entrer le samedi et 2 euros pour aussi le dimanche. Donc vous retrouvez toutes les infos sur l'auberge des rêveurs, tout attaché sans accent, sans apostrophe, .fr. Qu'est-ce que j'aurais oublié?
L'auberge des rêveurs @gmail.com si vous voulez directement des informations. Et
le billet de tombola avec
le billet de tombola avec les 2 euros.
Les entrées,
on recherche toujours des bénévoles et surtout venez nombreux, parlez-en autour de vous, c'est très important.
Ça. C'est très important. Partagez la bonne parole, relayez le site. On peut vous trouver ailleurs que sur le site, réseau Facebook, Instagram, des
absolument.
Choses comme ça.
On a effectivement le Facebook de l'auberge des rêveurs où on relaie toutes les informations de Meugeotrie et Merveille, l'Instagram également.
Meugeotrie et Merveille aussi ou l'auberge des rêveurs?
C'est tout l'auberge des rêveurs et qui porte du coup Meugeotrie et Merveille. Mais c'est l'auberge des rêveurs.
Eh ben c'est parfait. Romain, un dernier last word?
À bientôt.
Venez jouer avec moi, tiens, ça sera.
On retrouve les 25 et 26 avril. Ouais.
Merci à tous les trois pour être venus.
Merci à vous.
On se retrouve dans 15 jours.
Vous pouvez écouter Imaginaire demain parce que dans l'émission il y a une interview de Sébastien Cellerin. On parle de Brindlewood Bay. Encore.
Je vais pas la faire mon ending. Hein. On se retrouve dans 15 jours pour parcourir et arpenter ensemble à nouveau les voies du scénarium.